Bonsoir. Juste un mot avant que l'heure des rêveurs ne commence pour vous dire que cette émission a été enregistrée quelques heures avant l'attentat contre Charlie Hebdo, mercredi dernier. J'ai d'abord hésité à la diffuser, mais ce soir je suis convaincue qu'il faut continuer à faire ce que l'on sait faire et à être ce que l'on est, n'en déplaise aux cons et aux fanatiques de tout poil. Alors place à la littérature.
Lorsque un médecin fait une découverte quelconque, il l'essaie sur des chiens ou quelquefois sur lui-même. Eh bien, lorsque j'ai l'intuition que quelque chose existe dans tel recoin de l'âme humaine, en choisissant un personnage, en lui inoculant cette sorte de maladie à laquelle j'ai pensé, et en vivant la vie de ce personnage pendant sa période d'incubation, il est évident que je me rends compte si l'idée que j'ai eue, l'intuition que j'ai eue est valable ou ne l'est pas.
Amis rêveurs, c'est la voix de Georges Simenon que vous venez d'entendre. Ce soir pourtant, il ne sera pas question de Maigret, encore moins de Polar. Ce soir, je vais vous parler d'un roman dur, un roman pur, écrit à la première personne, ce qui était assez rare chez Simenon. Lettre à mon juge, c'est un texte confession, une lettre écrite par un homme condamné pour le meurtre de sa maîtresse à son juge. C'est l'histoire d'un homme comme un autre, dont la vie bascule, c'est ça qui intéressait Simenon. Dans Lettre à mon juge, le personnage principal, c'est Charles Allavoine, un homme d'une quarantaine d'années, médecin de campagne, qui a toujours voulu bien faire et qui a toujours fait scrupuleusement, de son mieux, ce qu'on lui disait de faire. C'est un homme qui n'a jamais protesté, qui ne s'est jamais révolté. Il n'a même jamais eu conscience de subir une contrainte. Consciencieux, il a accompli ce qu'on a voulu qu'il accomplisse. Charles Allavoine a vécu sans s'en apercevoir, à côté de lui-même, jusqu'au soir où sa vie bascule sur un quai de gare. Il y a quelques années, Lettre à mon juge a été adapté pour le théâtre par le comédien Robert Benoît. Le spectacle a eu un grand succès et c'est justement avec Robert Benoît que j'ai choisi de vous faire entendre ce roman. Pourquoi Robert Benoît ? Parce qu'il est encore bouleversé par ce texte qu'il a pourtant joué des centaines de fois. Et quand il a commencé à me le dire en studio, il ne pouvait plus s'arrêter, emporté, encore une fois, par la langue, par la matière noire. Et je me suis laissée embarquer. J'espère que ça fera la même chose pour vous. Robert Benoît, dites-moi comment tout ça a commencé, parce que c'est presque par hasard que vous tombez sur Simenon, si j'ai bien compris.
Par hasard, je connaissais Simenon par les Maigret. Et j'étais jamais vraiment intéressé, c'est-à-dire que Maigret, puis c'était surtout à l'époque, c'était Jean Richard, je crois, qui jouait les Maigret, et c'était tellement mauvais que tout ça, toutes ces choses-là, que j'ai pas vraiment été attiré par Simenon, et puis j'étais jamais attiré par les polars. Pour moi, c'était un polar, voilà.
Ouais, c'est ça.
Et puis, je sais pas, moi, à un moment donné, dans ma carrière, je me suis dit, tiens, il y a une chose que j'ai jamais faite, c'est jouer tout seul sur scène. J'en avais un peu ras-le-bol de tous les metteurs en scène qui me dirigeaient, fais ci, fais ça, etc. J'ai dit, je vais faire un truc, moi, tout seul, et je cherchais un monologue. Et je me promène sur les quais de Paris, et je vois un texte, lettre à mon juge. J'ai dit, lettre, une lettre, donc ça peut être un monologue. C'est signé Simenon, c'est un beau carton. Je prends ce petit bouquin, je vais à la campagne... Et je passe la nuit dessus. J'étais scotché par l'histoire, cette force, cette démonstration. J'étais complètement bouleversé par ça.
Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez lu ce texte pour que ça vous bouleverse à ce point-là ? Cette nuit-là, à lire...
Moi, ce qui me troublait, c'était que Georges Simenon m'avait quelque part intérieurement, de par sa démonstration au niveau du texte, convaincu qu'on pouvait en arriver là. Qu'un homme pourrait un jour tuer une femme par amour. Je l'ai compris, mais j'arrivais pas à totalement l'admettre.
C'est ça, donc vous avez compris qu'on pouvait tuer par amour.
Oui.
Pour sauver l'amour.
Pour sauver l'amour.
C'est ça qui vous a tenu éveillé cette première nuit avec le texte dans les mains.
Voilà. J'ai tout de suite écrit à Georges Simenon pour lui demander l'autorisation de faire une adaptation de son roman. Il me répond « Monsieur, je n'ai aucune intention que vous fassiez une pièce de théâtre avec lettre à mon juge et sachez que je ne discute pas avec les artistes, mais avec les producteurs. Je vous prie d'agréer mes sentiments. » Les meilleurs points, la ligne, sec.
Un peu sèche, non là.
Sec.
Pas très sympathique, hein. Pas chaleureuse du tout, la lettre.
Non.
Ça vous a refroidi?
Oui. Oui, mais j'étais pas. J'ai voulu persévérer. J'ai vu un numéro de téléphone, je téléphone et je tombe sur une dame charmante, Madame Etken, qui était sa secrétaire fondée de pouvoir. C'est-à-dire qu'elle avait. Georges Simenon était à cette époque déjà très très malade et c'est elle qui gérait un peu les. Mais elle m'a dit écoutez, ce n'est pas moi qui vous ai. C'est Georges qui ne veut absolument pas que vous fassiez une pièce de théâtre avec ça parce que son roman lui tient à cœur. Mais je lui ai dit écoutez, madame, ce n'est pas une pièce de théâtre. Il n'y aura pas la maîtresse, la femme, le tribunal, tout ça. Il n'y aura pas tous ces personnages-là. C'est simplement lettre à mon juge. Le personnage est en prison. Il écrit à son juge pour lui expliquer comment il en est arrivé à tuer une femme par amour.
C'est ça que vous lui dites à la secrétaire voilà. De Georges Simenon.
Et elle me dit, mais écoutez, c'est tout à fait différent. Je vais en parler à Georges et je vais vous rappeler. Elle me rappelle 3-4 semaines après. Elle dit, écoutez, j'en ai parlé à Georges. Il est séduit par votre idée. Alors racontez-moi maintenant comment vous allez faire. Alors je raconte, je dis voilà, je ferai ça, je couperai ça, voilà. Et puis tout d'un coup j'entends des bruits comme ça au téléphone. Et elle me dit écoutez, j'ai pas voulu vous le dire, mais Georges est à côté de moi, il peut pas vous parler. Mais sachez qu'il est, son sourire, tout ça me démontre qu'il est vraiment heureux de ça. Il vous donne les droits. Gratuitement, pendant en limitation de temps, dans tous les pays francophones. Vous recevrez la lettre dans quelques temps. Et effectivement, je reçois une lettre un mois après. Et un mois après aussi, à la télévision, on me dit « Georges Simenon est mort ». Donc, un mois avant de mourir, il a signé cette lettre. Vous rendez compte ?
Pour vous ?
Ouais. Pour moi qui suis pas une vedette, rien du tout. Et gratuitement, parce qu'après j'ai appris par son fils notamment que Georges ne donnait jamais les choses gratuitement. Il était très intéressé.
Comment vous avez réagi quand vous avez entendu qu'on vous donnait ces droits? Comment vous avez vécu ça quand vous avez compris qu'en fait Georges Simenon écoutait votre conversation et qu'il n'était plus capable de parler pour vous répondre?
J'étais complètement bouleversé. Acquis de droit, je, sous-signé Georges Simenon, autorise par les présentes M. Robert Benoît à adapter pour la scène son roman « Lettre à mon juge » sous forme de monologue et de l'interpréter sur les scènes françaises et francophones. Lausanne, le 28 juillet 1989. Et un mois après, Simenon mourait.
Et vous l'avez gardé. C'est touchant, vous savez pourquoi ? Parce que c'est la carte de Georges Simenon et c'est tapé à la machine à écrire. Et il y a sa signature. Ah non, ça c'est beau, ça faut que vous le gardiez. Hein. C'est
ouais,
magnifique.
Mais je le garde.
Acquis de droit.
Ouais. Il y avait. Je peux vous dire, j'ai eu les larmes. J'ai eu les larmes aux yeux. Donc, si vous voulez, j'avais ce roman, ces droits, et il ne fallait pas que je me casse la figure. Il fallait que je réussisse. C'était en 89. Et je n'ai créé la pièce qu'en 2003.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé de 89 à 2003?
J'ai eu besoin de vivre. De vivre. La vie m'a... Il fallait... Je ne voulais pas que ce personnage, ce médecin qui avait tué cette femme, que le public dise « c'est un fou ». Or, pour moi, ce n'était pas un fou.
Et c'est ce que dit le personnage dans tout le roman. Il n'arrête pas de dire « je ne suis pas fou ».
Je ne suis pas fou,
j'ai
mais moi...
J'ai tout fait en conscience. C'est-à-dire voilà. C'est un choix avec préméditation.
Avec
j'ai tué la femme que j'aimais.
Absolument.
Pour sauver cet amour.
Voilà. Et moi, c'était ces phrases-là qui étaient très dures pour moi à cette époque. J'étais peut-être un peu trop jeune. Je n'avais pas peut-être assez vécu. Après, j'ai connu une expérience de la maladie. J'ai connu une histoire d'amour. J'ai connu des choses qui m'ont quelque part... qui ont fait que j'ai dit « là, ça y est, je sens que je vais pouvoir le faire ».
Il fallait que vous vous cogniez à la vie, il fallait que vous vous y frottiez, c'est
absolument.
Ça, vous étiez trop jeune.
Voilà, il fallait que ça vienne, il fallait que le choc que j'ai eu quand Georges Simenon m'a donné ses droits, que je retrouve ce choc sur scène, cette émotion, ce qui m'a le plus étonné, c'est, j'ai eu peur que, je me suis dit, les femmes ne vont pas accepter ça. Or, les femmes acceptaient ça. Elles ont compris pourquoi cet homme a tué cette femme par amour.
Et pourquoi vous pensiez que les femmes n'allaient pas le comprendre, n'allaient pas l'accepter ?
Mais parce que c'est terrible, je me mets à la place d'une femme, dire... Parce que dans l'histoire telle que je l'ai comprise, c'est qu'elle, elle était consciente qu'il allait la tuer.
C'est-à-dire Martine, elle s'appelle Martine, cette femme, c'est son amante.
Voilà.
Elle le sait.
Elle le sait.
Et elle est d'accord.
Elle est d'accord. Quand je l'ai joué, j'ai eu devant des associations de magistrats, il y a eu des juges, il y a eu, tenez, Van Rienbeek, là, il y a eu Justil qui est venu. Ils étaient scotchés par la démonstration que Simenon avait faite de ce crime. Et moi, je me rappelle, Till m'a dit une chose, il faudrait que tous les juges viennent voir ça.
Si vous aviez des doutes, rassurez-vous, vous êtes sur France Inter et dans l'heure des rêveurs ce soir, c'est Georges Simenon, lu par le comédien Robert Benoît.
C'est la saison des pluies, la fin des amours, assis sous la véranda, je regarde pleurer cet enfant que j'ai tant aimé. C'est la saison des pluies, la fin des amours. J'ai quitté la véranda et me suis approché de celle que j'ai tant aimée. C'est la saison des pluies, l'adieu des amants. Un autre viendra qui d'un baiser effacera le rimmel au coin de ses lèvres.
C'est un texte, c'est une confession. C'est un homme qui parle à son juge, qui veut essayer de lui faire comprendre absolument pourquoi il a fait ce geste. Parce que sinon, son geste n'aura pas de sens.
Ouais. Il veut surtout lui faire comprendre qu'il avait prémédité son geste. C'est-à-dire que pendant tout l'interrogatoire, le juge n'arrivait pas à comprendre non plus qu'il pouvait préméditer cet acte-là. Donc le juge avait de bons sentiments, il ne voulait pas le condamner à mort. Toute cette lettre, c'est pour lui démontrer qu'il a agi avec préméditation.
Qu'il n'est pas fou. Et c'est très beau, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais certainement, parce que vous connaissez ce texte par cœur, comment au début, dans le roman, on s'inquiète de son calme, après qu'il ait été jugé, et personne ne comprend pourquoi il est si calme. Et il est calme parce qu'il est en accord avec... Avec lui-même.
Mais
vous savez que Simenon a dit qu'il avait écrit ce texte pour se débarrasser lui-même de ses propres démons.
Voilà, il a écrit Agide, ça.
Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a dit, Georges Simenon, dans sa correspondance avec Gide. J'ai porté ce texte pendant 12 mois pour me débarrasser de mes fantômes et ne pas faire le même geste que mon héros.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est ça.
J'essaye de supprimer autant que possible le pittoresque, qui est une chose relativement facile, pour arriver, je n'y suis pas encore arrivé, Dieu merci, parce que quand on arrive, il n'y a plus rien à faire. Mais enfin, j'essaye de rendre l'homme, avec les moyens les plus simples, d'arriver, pour ainsi dire, à le graver au burin, vous comprenez ?
Est-ce que vous pouvez me dire un peu de ce texte, le début entre autres? Comment ça commence, Lettre à mon juge?
Je voudrais qu'un homme, un seul, me comprenne, et j'aimerais que cet homme, ce soit vous. Nous avons passé de longues heures ensemble pendant les semaines de l'instruction. Mais alors il était trop tôt. Vous étiez un juge. Vous étiez mon juge et j'aurais eu l'air de me justifier. Maintenant que je suis condamné, vous savez que ce n'est pas de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Pendant 49 ans, comme vous, comme les autres, j'ai été un homme libre. Autrement dit, je suis en quelque sorte un criminel d'occasion. En ai-je des choses à vous raconter maintenant que mon avocat n'est plus là pour me marcher sur le pied chaque fois que j'énonçais une vérité trop simple pour son entendement? L'imbécile, le joyeux imbécile qui s'obstinait, malgré moi, à vouloir un acquittement. Mon juge, j'ai agi avec préméditation, en pleine connaissance de cause. Vous entendez? Avec préméditation. Et tant qu'un homme n'aura pas compris cela, je serai seul au monde.
Lettre à mon juge de Georges Simenon, c'est la confession d'un homme qui veut qu'on l'écoute vraiment. Et c'est un homme qui, au fur et à mesure de son récit, prend conscience de la médiocrité de la vie qu'il menait avant de rencontrer Martine, sa maîtresse. Et c'est son meurtre qui lui permet de porter un autre regard sur cette existence grise et vide qu'il a menée pendant des années. Une vie sans amour. Et comment aurait-il su ce qu'était que l'amour? À la campagne, on ne parlait pas d'amour. Fils de paysan, bon gars, bon étudiant, il devient médecin généraliste. Quand sa mère lui dit de se marier, il ne proteste pas. C'est sa mère qui choisit sa femme pour lui. C'est un mariage triste. Un premier enfant naît, puis un deuxième. On lui avait dit qu'il fallait avoir deux enfants pour avoir un gros garçon. Il n'a pas dit non. Sa femme en mourra, elle n'a pas supporté la deuxième grossesse. Charles Allavoine se retrouve donc veuf avec deux enfants, il vit des aventures passagères, de ci, de là. Sa mère, qui a peur du qu'en dira-t-on, lui suggère de déménager pour une plus grande ville et de se remarier. C'est ce qu'il fera. Il partira à La Roche-sur-Yon et il épousera Fernande, une femme digne, une fille de propriétaire. Il l'épousera pour les convenances, par lâcheté et par vanité. Des nuits entières, il se demandera ce qu'elle fait là, allongée à côté de lui dans le lit. Mais il n'est pas malheureux. Puis un jour, le malaise a commencé. Il a eu la sensation de s'agiter à vide. Il a eu une impression d'irréalité. Mais on l'avait tellement habitué à penser que le monde est bien comme il est.
Bon, mais il lui manquait. Il lui manquait quelque chose. Il ne savait pas. Il ne savait pas exactement ce qui lui manquait. Mais c'était quelqu'un de docile, de complètement... Mais il lui manquait quelque chose.
Et là, c'est dit magnifiquement, j'avais soif d'une autre vie que la mienne.
Ouais. J'avais faim.
Faim, c'est faim.
C'est faim. J'avais faim de quelque chose. Et puis, il utilise cette nuit. Hein, ma mère, elle dit, quand elle a faim, elle mange un petit morceau de gruyère. Et moi, mais ça ne me suffisait pas. J'essayais par le morceau de gruyère, mais ça ne me suffisait pas. J'avais faim, 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 faim. Mais faim de quoi? Et puis, ça débouche sur... Supposez que vous marchez dans une rue calme de province par un après-midi chaud du mois d'août. La rue partagée en deux par la ligne qui sépare l'ombre du soleil. Vous suivez le trottoir inondé de lumière, et votre ombre marche avec vous, presque à vos côtés. Vous la voyez cassée en deux par l'angle que les maisons aux murs blancs font avec le trottoir. Supposez toujours, hein, mon juge, faites un effort. Tout à coup, cette ombre qui vous accompagnait disparaît. Elle ne change pas de place. Elle ne passe pas derrière vous parce que vous avez pris une autre direction. Je dis bien, elle disparaît. Et vous voilà soudain, sans ombre, dans la rue. Vous vous retournez, vous ne la retrouvez pas. Vous regardez à vos pieds émergent d'une flaque de lumière. Alors vous vous tâtez, vos mains sentent bien la consistance de votre corps,
vous existez, bien que vous n'ayez plus d'ombre. Imaginez-vous l'angoisse d'errer seul sans ombre dans un monde où chacun a la sienne. Et j'étais tout seul à voir le monde ainsi, tout seul à m'agiter dans un univers ignorant de ce qui m'arrivait. Cette image, je ne sais pas si je l'ai rêvée ou si je l'ai lue quelque part, mais quand j'ai commencé à vous en parler, je croyais inventer une comparaison. Puis il m'a semblé que cette angoisse de l'homme sans ombre m'était familière. En somme, pendant des années, j'avais vécu sans m'en apercevoir. J'avais fait scrupuleusement de mon mieux tout ce qu'on m'avait dit de faire, sans chercher à en connaître la raison, sans chercher à comprendre. Il faut un homme, une profession, ma mère avait fait de moi un médecin, il lui faut des enfants, j'avais des enfants, il lui faut une maison, une femme, et j'avais tout cela, il lui faut des distractions, je roulais en auto, jouer au bridge, au tennis. Je n'étais pas malheureux. Oh, ne croyez pas cela. Mais j'avais l'impression de m'agiter à vide. Il m'arrivait qu'un désir vague me pénètre, tellement vague que je ne sais pas comment en parler. Il me manquait quelque chose, et j'ignorais quoi. J'avais faim, sans doute, mais faim de quoi ?
Comment vous le comprenez-vous, cet homme sans ombre ? C'est un homme à côté de lui-même, qui n'existe plus, qui n'a plus de chair, désincarné.
Oui, qui n'est pas un homme, étant donné qu'il n'a pas d'ombre, donc il n'existe pas.
Il n'existe pas.
Il n'existe pas, il a cette impression qu'il n'existe pas. Il est à la recherche de cette ombre, et cette ombre, quelque part, il va la trouver. Il va la trouver sur un quai de gare, il pleut, et il y a une jeune femme qui a aussi raté son train, qui est là avec de grosses valises. Et
qui n'est pas belle, qui lui plaît pas du tout.
Qui lui plaît pas, non.
Elle avait trop vulgaire.
Vulgaire, c'est très maquillé.
Elle fume.
Voilà, toutes ces choses-là. Donc, il n'est pas du tout attiré. Tout d'un coup, elle lui dit, tiens, mais le prochain train, il lui dit, le prochain train, il est dans 2 heures. Et elle lui dit, ben moi j'ai froid, on va aller boire un verre, un chaud, et puis ils vont dans un petit troquet, et puis ils parlent petit à petit, etc. Ils se laissent entraîner, et puis ils vont manger, et ils s'aperçoivent qu'ils ont aussi raté l'autre train. Et puis ils boivent, ils vont danser, ils font, etc. Ils se laissent complètement entraîner par elle, et puis là il va découvrir réellement ce qui lui manquait.
Il va découvrir réellement ce qui lui manquait. Il en avait, avant que vous me disiez cette rencontre, que vous me la lisiez, on avait quand même, un peu avant dans le roman, une petite idée de ce qui pouvait lui manquer. Parce qu'il tout au début de cette confession, il se souvient d'une image.
Ouais.
Il y a une image comme ça qui l'a pas obsédé, mais qui l'a poursuivi toute sa vie.
Il l'a poursuivi toute sa vie.
Et c'est peut-être cette image-là, enfin quelque chose de cette image-là qu'il retrouvera dans cette gare de Nantes, soir en ayant loupé son train. Flashback. C'était quelques années auparavant, Charles s'en souvient. Il était encore un étudiant, c'était à Caen. Un soir de pluie, il a été surpris par une image de l'amour. Et c'est, sans qu'il le sache, cette image qui l'a poursuivi toute sa vie. C'est Robert Benoît qui lit « Lettre à mon juge » de Georges Simenon.
J'étais allé voir ma tante à Caen, le soir venait de tomber et tout était luisant de pluie. À l'angle de la rue Saint-Jean, il y avait une jeune fille qui attendait. Elle avait des cheveux blonds qui s'échappaient d'un béret noir et des gouttelettes de pluie sur ses cheveux. Un tramway passe devant elle. Un jeune homme qui se situait sur la plateforme arrière est descendu en voltige. Cela s'est fait comme dans un rêve.
Au moment précis où il atterrissait sur le trottoir, la main de la jeune fille s'accrochait à son bras. Tous les deux, d'un même mouvement, se sont dirigés vers une rue obscure et, soudain, sans un mot, sous le premier porche, ils se sont soudés l'un à l'autre avec leurs vêtements mouillés, leurs peaux mouillées. Et moi, qui les regardais de loin, j'avais à la bouche comme un goût de salive étrangère. C'est à cause de ce souvenir que quelques années plus tard, déjà étudiant, j'ai voulu faire à Caen aussi exactement la même chose. Mais il n'y avait pas de tram et l'on ne m'attendait pas. Vous connaissez évidemment la brasserie Champ d'Hiver. Assis à une table, je me souviens que je fumais une pipe énorme qui me donnait l'illusion d'être un homme. Et il y avait à une table en face de moi une femme qui portait un tailleur bleu marine et un petit chapeau rouge. Elle avait quelques taches de rousseur à la base de son nez. Celui-ci se retroussait quand elle souriait. Or, elle m'a souri doucement, avec bienveillance. Nous nous sommes souri ainsi pendant un bon moment. Timidement, je me suis approché. Ce que nous nous sommes dit ensuite, je l'ai oublié. Mais je sais que j'ai passé là une des heures les plus heureuses et les plus chaudes de ma vie. Puis nous sommes sortis sous une pluie fine dont elle ne se souciait pas. Elle m'a pris le bras le plus naturellement du monde. Elle a tiré une clé de son sac. Il ne faudra pas faire de bruit, sinon ma logeuse nous mettrait à la porte. C'est tout, mon juge. Et de le raconter, je m'aperçois que c'est ridicule. C'est tout, et ce n'est pas tout, mon juge. C'est tout, parce qu'il ne s'est rien passé que de très ordinaire. Ce n'est pas tout, parce que pour la première fois de ma vie, j'avais la fin d'une autre vie que la mienne. Je n'étais pas le premier à gravir le vieil escalier sur la pointe des pieds. Qu'importe. J'étais un homme, elle était une femme. Nous étions deux êtres humains à chuchoter dans ce lit avec la logeuse endormie derrière la cloison. Dehors, il pleuvait. Il y a eu un moment, mon juge, où ma tête entre ses seins, je me suis mise à pleurer. J'aurais voulu. Oh, voilà ce que je ne pouvais pas exprimer. Tout cela, c'était le mystère, l'ennemi. Sylvie m'a donné pendant quelques heures la sensation de l'infini. C'est bête, n'est-ce pas? Cela s'est passé dans votre ville. Peut-être avez-vous croisé, Sylvie. Peut-être que vous aussi. Nous sommes à peu près les mêmes hommes. Mais moi, mon juge, c'est mon premier amour. Et c'est seulement maintenant que je m'en rends compte.
Et c'est ça. C'est ce que poursuivra cet homme. C'est ce souvenir de ce premier amour. Et ce premier amour, c'est une nuit. Ouais. C'est juste une nuit, mais c'est juste une nuit où il a touché là quelque chose. Que... C'est ça qu'il poursuit, c'est ça qu'il cherche, sans savoir. Et c'est ça qu'il trouvera sur ce quai de gare.
Sur ce quai de gare avec Martine.
Avec Martine.
Votre héros, à 16 ans, rencontre une jeune femme.
J'avais oublié ça.
Il poursuivra d'ailleurs durant tout le livre le rêve de cette brève rencontre et vous laissez entendre que cet événement est une des clés du livre, comme le contrepoint du roman.
Oui.
Vous ne vous souveniez pas?
Non, pas du tout. Mais je comprends que je l'ai écrit parce que ça correspond tout de même à une de mes hantises. C'est cette question de communion entre deux êtres. Et je pense que souvent, lorsqu'on est très jeune, vers l'âge de 16 ou 17 ans, une fille de rencontre comme ça vous donne l'impression que ce serait possible. L'impression qu'il suffirait d'un rien pour que cette communion existe.
Nobody made this war of mine.
Ami rêveur, vous l'avez compris, c'est donc sur le quai de la gare de Nantes que Charles rencontre Martine pour la première fois. Ils ont tous les deux raté le train pour La Roche-sur-Yon. Elle ne lui plaît pas. Ils décident d'aller boire un verre ensemble en attendant le prochain train. Ils vont dîner, puis boire. Ils oublieront l'heure. Le dernier train partira sans eux. Martine boit beaucoup. Elle veut danser. Danser avec lui. Elle le serre. Il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise parce qu'il sent qu'il y a quelque chose de triste et de forcé dans son excitation.
Elle s'excitait toute seule, mon juge. Ce n'était pas moi, c'était même pas l'homme qui comptait.
J'ai compris plus tard. À ce moment-là, j'étais troublée, déroutée. Son désir, malgré ma présence...
Ma présence était un désir solitaire.
Et son excitation sexuelle était une excitation laborieuse.
Ouais.
Elle s'y raccrochait comme pour échapper à un vide. En même temps... Tout paradoxal que cela paraisse, elle en était humiliée, elle en souffrait. À certains moments, tenez, comme nous venions de nous rasseoir et que l'orchestre jouait une musique obsédante qu'elle avait demandée, il lui est arrivé d'enfoncer soudain ses ongles dans ma cuisse. Nous avons beaucoup bu, je ne sais plus combien de verres. À la fin, nous étions les seuls clients dans le cabaret et le personnel attendait notre départ pour fermer. On a fini par nous mettre poliment à la porte. Vous vous souvenez de ça, de cette... Ça annonce. Ça annonce qui va nouer la passion. Et après ça, donc...
Tous les bars étaient fermés. En fin de compte, le chauffeur nous a déposés devant un hôtel banalement terne où il y avait encore de la lumière et où le gardien de nuit tripotait des clés sur un tableau, a murmuré « Une chambre à deux lits ?» La porte refermée, elle m'a dit « Nous couchons chacun dans un lit, n'est-ce pas ?» J'ai promis, j'y étais fermement décidé. Il y avait une toute petite salle de bain, elle s'y est engouffrée en me recommandant « Couchez-vous toujours ». Je me suis déshabillé, je me suis glissé sous les draps. Je l'entendais aller et venir, ouvrir et fermer les robinets. J'ai eu, mon juge, une étrange sensation d'intimité. Une sensation d'intimité, vous le croirez si vous le voulez, que je n'ai jamais eue avec Armand. Comme elle tardait à venir et que je pensais qu'elle pouvait être un peu malade, j'ai demandé « Ça va ?»« Oui, ça va. Vous êtes couché ?»« Oui. Très bien, je viens. » J'ai éteint la lumière de la chambre par discrétion. En sortant de la salle de bain, je l'entendais qui tâtonnait dans l'obscurité pour trouver son lit. En se couchant, elle a murmuré gentiment « Bonne nuit. » J'ai répondu « Bonne nuit. » Nous étions dans le noir tous les deux et nous ne dormions pas. Deux ou trois fois en l'espace d'un quart d'heure, je l'ai entendu qui s'est retourné tout d'une pièce en soupirant. Et j'en ai reçu à chaque fois comme une bouffée de chaleur. Je commençais à m'assoupir. C'est alors justement que je me suis levé d'un bond, que je me suis dirigé vers le lit voisin. J'ai balbutié « Martine ». Mes lèvres ont fouillé son visage.
Peut-être que son premier mouvement a été de me repousser. Nous ne pouvions pas nous voir, nous étions aveugles tous les deux. J'ai rejeté la couverture comme dans un rêve, sans réfléchir, sans penser, sans savoir au juste ce que je faisais. D'un geste irrésistible, je l'ai pénétré d'un seul coup. Oh, au même instant, oh, j'ai eu l'impression d'une révélation. Il m'a semblé que pour la première fois de ma vie, je possédais une femme. Et je sentais chez elle comme une angoisse qui montait, une angoisse étrange accompagnée de frémissements violents. Et j'ai vu monter cette angoisse jusqu'à un tel paroxysme que ma conscience de médecin s'en effrayait et que je me suis senti soulagé quand, soudain, après une dernière tension de ses nerfs, elle est retombée comme vide, découragée, en balbutiant quelque chose comme « Je ne peux pas y arriver ». J'ai là essayé de sourire en me serrant ma grosse main. Nous sommes restés ainsi longtemps, un long moment, dans le silence de l'hôtel, à attendre que ses pulsations redeviennent à peu près normales. Tu as couché avec lui ? Oh, c'était effarant, mon Dieu. Je savais de par sa cicatrice non seulement qu'elle avait eu des amants, mais qu'elle avait été salement touchée par une sale maladie. N'empêche que soudain, alors que je posais cette question, j'ai souffert d'une contraction épouvantable dans la poitrine. Je suis resté comme en suspens. J'étais à bout.
Et voilà, et c'est tout est dit là.
Ouais.
L'angoisse qui va monter au fur et à mesure pour lui à l'idée de tous ces autres hommes.
Mmh.
Hein, tout est noué.
Voilà.
Le drame est noué. Il est pris.
Et après, il rentre chez lui.
Et après, c'est pas très important. Parce que ce qui est important, en fait, c'est de comprendre qu'à partir de là, il ne peut plus vivre sans elle.
Il peut plus vivre sans elle.
Il ne supporte pas l'idée qu'elle puisse rencontrer d'autres hommes.
Oui.
Il est fasciné par ce personnage, par cette femme blessée. Cette petite fille, il le dit, hein, il va user de la psychanalyse même. Il va se servir un peu de psychanalyse pour essayer de comprendre ce qui se passe. Cette femme qui n'arrive pas à avoir de plaisir, c'est ça qui le bouleverse.
C'est ça qui le bouleverse.
C'est ça qu'il a compris.
Il l'a compris avec retard. Il a pas compris. C'est pour ça que dans sa nuit, quand elle est angoissée, qu'elle dit « je peux pas », elle peut pas.
Elle peut pas y arriver.
Voilà.
Et c'est ça. C'est ce corps crispé qui n'y arrive pas.
Voilà.
Cette recherche désespérée du plaisir qui va le happer lui,
Le
harponner.
Tout ce que je sais de ce roman, c'est que c'est un homme qui, jusque l'âge de 40 ou 45 ans, s'est résigné à la vie, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il s'est résigné à la vie de tous les jours, comme c'est, je crois, le cas de, mettons, 90% des individus. Ils sont partis à 20 ans avec une idée magnifique de l'existence, et puis après 5, 10 ans, ils se sont aperçus qu'il fallait en rabattre toujours un petit peu plus. À la fin, on se fait un petit bonheur, qu'une de mes consoeurs canadiennes, d'ailleurs, a appelé « bonheur d'occasion ». Vers 40 ou 45 ans, cette résignation, je crois, souvent fait place à une sorte de rage de vivre quand même, coûte que coûte, de rage de retrouver quand même cet idéal des 18 ou des 20 ans. C'est le cas de cet homme qui, après deux, trois expériences malheureuses, tombe sur une femme dans laquelle il a l'impression très nette de trouver celle avec laquelle il pourra connaître cette vie, il pourra connaître cette communion humaine, si vous voulez.
Or, c'est une femme quelconque.
C'est une femme quelconque, entendons-nous. C'est une femme quelconque pour les autres, mais c'est une femme en qui il a senti la possibilité d'être justement sa femme, d'être justement cette femelle dont il sera le mâle, avec lequel il sera possible de faire le couple.
Pas un seul soir, mon juge, nous n'avons fermé les yeux sans que j'aie imprégné sa chair. C'était un geste presque grave, rituel. C'était aussi pour elle un moment angoissant, car elle savait de quel prix je payais, lui faisais payer la moindre réapparition de l'autre Martine, cette Martine haletante en quête d'un soulagement impossible. Tu vois, Charles, je ne serai jamais une femme comme les autres. Je la réconfortais, mais il m'arrivait de douter, de sorte que nous appréhendions parfois ce geste qui séparait invariablement nos jours de nos nuits et par lesquels nous voulions mélanger nos deux sangs. Un jour, vois-tu, alors que tu n'y penseras pas, le miracle se produira. Et le miracle s'est produit. Oh, ce soir-là, je sentais le fil si frêle encore que je n'osais pas risquer un encouragement et que je feignais de ne pas m'apercevoir ce qui se passait. Charles, je l'ai serré plus fort et plus tendrement tout ensemble et c'est vraiment une voix de petite fille qui a demandé « Charles, je peux ?» Oh, mais oui, elle pouvait, c'était réellement sa chair, cette foi qui s'épanouissait. Alors, elle a poussé un cri comme je n'en avais encore jamais entendu, un cri de bête et tout ensemble, un cri de triomphe. Elle souriait d'un sourire nouveau où se mêlaient l'orgueil et la confusion, car elle était un peu gênée. Quand sa tête s'est abattue sur l'oreiller, quand son corps s'est mollement détendu, elle a balbutié. Enfin! Enfin, oui, juge, enfin elle était mienne en toute plénitude, enfin elle était femme. Oh, cette victoire, il a fallu, si je puis ainsi m'exprimer, la consolider, faire en sorte que ce ne soit pas un accident isolé. Oh, ne souriez pas, juge, je vous le demande en grâce. Essayez de me comprendre, voulez-vous. Ne faites pas comme ces gens qui se sont penchés sur mon cas, comme cette justice dont vous êtes un des servants et qui n'a rien voulu voir de ce qui importait vraiment dans mon crime. C'est à quelques soirs de là, au moment où nous étions le plus heureux, alors qu'elle s'endormait dans mes bras, toute barbouillée d'amour, que ma main caressait machinalement sa peau douce, et que je pensais, presque sans m'en rendre compte, et dire qu'il faudra un jour que je la tue.
Ils vont partir à Paris, ils vont tout recommencer à zéro. Et puis, lui, à vouloir la protéger, à vouloir essayer de la comprendre, et en même temps, pris par moments par des bouffées de violence inouïe, où il la frappe. Cette violence plus forte que lui, qu'il n'a jamais connue, qu'il découvre de lui-même, il la frappe parce qu'il pense à tous les autres hommes qu'elle a connus. Et c'est plus fort que lui.
C'est-à-dire que lui est jaloux de tous les hommes qu'elle a connus et elle, elle regrette tous les hommes qu'elle a connus.
C'est ça. Et donc elle accepte d'être battue.
Elle accepte qu'il lui tape dessus parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il a ses démons en lui, il a cette rage.
Et ce qu'il faut dire, c'est que jamais on juge. Hein.
Non.
C'était la grande phrase de Simenon, hein. Oui. Comprendre et ne pas juger. Mais là, pour le coup, dans Lettre à mon juge, à aucun moment on ne juge. Même quand il la bat, on ne se dit pas c'est un salaud, quoi. Il est en train de la battre. Pas du tout. Et on ne se dit pas, elle, mais quelle idiote d'être d'accord. Oui. Pourquoi elle se laisse battre? On est emporté, hein. On est pris dans cette histoire et on comprend. Oui. On comprend pourquoi lui la bat, on comprend pourquoi elle accepte et on comprend que ça finira mal.
Ce n'est pas celle qu'il aime qui bat, c'est ce qu'il y a de mauvais, vous comprenez ce que je veux dire. Elle, d'autre part, l'accepte parce qu'elle se rend compte aussi qu'elle ne lui apporte pas ce qu'elle aurait voulu lui apporter. Elle n'est pas entièrement ce qu'il aurait voulu qu'elle soit, elle ne peut pas lui donner tout. En réalité, c'est vraiment la femelle, et la femelle qui aime, elle voudrait apporter tout à l'homme. Et elle n'est capable de lui donner que des moments de bonheur énormes, mais payés par des moments d'hallucination, par des moments d'horribles cauchemars. Par conséquent, lorsqu'il la bat, elle y trouve une sorte même de volupté morale, s'entend, n'est-ce pas? Parce qu'elle a l'impression qu'il retire d'elle aussi, qu'il enlève d'elle ce mauvais dont elle a la haine également.
Georges Simenon écrit « Est-ce qu'il ne fallait pas nous délivrer ?» La délivrer, elle, de toutes ses peurs, de toutes ses hontes. La tuer pour la délivrer, tuer pour se délivrer de lui-même, et c'est la fin.
Je me souviens ce dimanche-là d'avoir passé un long moment accoudé à la fenêtre du salon. J'étais ému. Sautemont, peut-être. Nous sommes allés aux eaux de Vincennes, il y avait foule. On piétinait longtemps devant la cage aux fauves, devant la fosse aux ours, devant la singerie. Martine riait. Alors insidieusement, un autre sentiment s'est glissé en moi, une nostalgie vague que je connaissais. Là. Je sentais les fantômes qui étaient là, tout proches, qui n'attendaient qu'une occasion pour me sauter à la gorge. J'ai prononcé « Qu'est-ce que tu faisais le dimanche ?» Elle savait de quelle époque de sa vie je parlais. Il lui était impossible de répondre. Elle a balbutié « Je m'ennuyais ». Ce n'était pas vrai. Elle s'ennuyait peut-être au fond d'elle-même, mais elle s'acharnait à trouver le plaisir. Elle allait le chercher n'importe où. Mais j'aurais dû la frapper, il en était encore temps, nous étions plus ou moins dans la vie. J'ai failli lui dire au moment de mettre la clé dans la serrure « N'entrons pas ». J'ai poussé la porte, elle est entrée et tout était dit à ce moment. Nous nous sommes couchés tout de suite, nous avons fait l'amour. Bonne nuit, Charles. Bonne nuit, Martine. Bonne nuit, Charles. Bonne nuit, Martine. Sa tête a cherché sa place dans le creux de mon épaule. Elle a poussé un soupir. Alors, les fantômes sont venus les plus laids, les plus immondes. Il était trop tard pour que je me défende. Martine était endormie ou faisait semblant. Ma main lentement a monté le long de sa hanche, caressant la peau douce. Sa peau si douce a suivi la courbe de la taille et s'est arrêtée en passant sur la ferme mollesse d'un sein. Oh, des images, toujours d'autres mains, d'autres caresses. La rondeur de l'épaule où la peau est si lisse, puis un creux tiède, le cou. Oh, je savais bien, moi, qu'il était trop tard. Tous les fantômes étaient là, l'autre Martine était là, celle qu'ils avaient souillée tous tant qu'ils étaient. Oh, je voyais ma main autour de son cou. J'ai serré mon juge, brutalement. Oh, j'ai vu ses yeux s'ouvrir, j'ai vu son premier regard, qui était un regard d'effroi, puis tout de suite l'autre, un regard de résignation, de délivrance. Un regard d'amour, je serrais, c'était mes doigts qui serraient. Je ne pouvais pas faire autrement, je sentais bien qu'elle m'encourageait, qu'elle avait toujours prévu cette minute-ci, que c'était le seul moyen d'en sortir. Il fallait tuer l'autre une fois pour toutes, afin que ma Martine puisse enfin vivre. J'ai tué l'autre en toute connaissance de cause. Vous voyez bien qu'il y a préméditation, qu'il faut qu'il y ait préméditation, sinon ce serait un geste absurde. Je l'ai tuée pour qu'elle vive. Martine était en moi, l'autre était morte définitivement et tant qu'il y aurait un être humain. Moi, pour garder en lui la vraie Martine continuerait à exister. Voilà pourquoi j'ai vécu, juge. Voilà pourquoi j'ai subi le procès. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu de votre pitié, ni à vous, ni aux autres, ni de tous ces artifices qui auraient pu me faire acquitter. Je ne suis pas fou. Je ne suis qu'un homme. Un homme comme les autres, mais un homme qui a aimé et qui sait ce que c'est que l'amour. Si je vous ai écrit cette longue lettre, c'est qu'il faut que le jour où je lâcherai la barre, quelqu'un recueille notre héritage afin que ma Martine et son amour ne meurent jamais tout à fait. Nous avons voulu la totalité de l'amour. Adieu, juge.
Le jour même où le juge d'instruction Ernest Comelio, 23 bis rue de Seine à Paris, recevait cette lettre, les journaux annonçaient que le docteur Charles Allavoine, né à Bourgneuf, en Vendée, s'était donné la mort dans des circonstances assez mystérieuses à l'infirmerie de la prison. Par égard pour son passé, pour sa profession, étant donné son calme et ce que le médecin-chef de l'établissement pénitentiaire appelle sa bonne humeur, on le laissait parfois seul pendant quelques instants à l'infirmerie où il avait des soins à prendre. Il a pu accéder ainsi à l'armoire aux toxiques et s'empoisonner. Une enquête est ouverte. Thank you. comme ça que finit Lettre à mon juge. Merci à Robert Benoît. Sur le site de l'émission, vous pourrez trouver les dates auxquelles Robert Benoît joue Lettre à ma mère, un autre texte de Simenon. C'est Claire Destacan qui a fait le montage de cette émission. À la technique ce soir, c'était Hélène Langlois et c'est Xavier Pestuggia qui a réalisé l'émission. Sur le site de l'émission aussi, vous trouverez les références des disques et de quelques ouvrages sur Georges Simenon. Voilà, c'est fini pour ce soir. On se retrouve vendredi prochain, 20h, l'heure des rêveurs. Mais tout de suite, c'est l'heure du grand concert sur France Inter.